à Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce premier jour du Nouvel An. Pour nous chrétiens, on n'en parle pas beaucoup, hein. Je suis peut-être le seul à parler de ça, je ne veux pas vous ennuyer, mais nous avons commencé hier avec le premier dimanche de l'Avent, un Nouvel An, une nouvelle année chrétienne. Alors, en cette première émission, je voudrais parler de notre Seigneur Jésus-Christ par la bouche de Charles de Foucault. Charles de Foucault, dont je vous ai déjà parlé en racontant toute sa vie, une vie extrêmement riche de présence justement de Jésus au fond de son cœur, cet homme extrêmement riche, un riche officier, qui est né au siècle dernier et qui est mort en 1916 à 58 ans, assassiné au Sahara. Il était devenu trappiste entre-temps, puis il s'était fait ermite finalement. Il s'est converti, comme ça, à 28 ans, et à 30 ans, il a pris la décision de vraiment tout donner, tout faire. C'est une conversion qui est à la fois subite dans un sens, mais qui a pris un certain temps. C'était pas si facile, hein. Et il faut pas s'imaginer que cette conversion s'est faite comme ça en un clin d'œil. Ça nous gêne dans ce temps-là. On se dit, pourquoi se convertissent-ils si vite et nous, ça nous prend tant de temps. Charles de Foucault avait pris le nom de frère Charles de Jésus. Ça indique bien jusqu'à quel point il avait mis toute sa vie au cœur de la vie de Jésus. Il est né à Strasbourg en 1858 et orphelin de père et de mère, alors qu'il n'a pas encore 6 ans. C'est un enfant blessé, évidemment. Il a eu une adolescence difficile. Il a perdu la foi à 15 ans. Et c'est peut-être pour transformer cette angoisse qu'il porte au fond de lui-même, comme bien de nos jeunes aujourd'hui, il s'enfonce dans une vie de vraiment de jouissance et de désordre. Il faut voir sa photo. Quand il est jeune, il a une photo vraiment, j'ose dire, une tête écœurante. Vraiment, c'est une tête abominable. Et cette tête va devenir d'une pureté, d'une grandeur et d'une beauté absolument sensationnelle. Il est officier à 22 ans. Il est envoyé en Algérie. Il a fait de très mauvaises études. Il était presque toujours dernier de classe. Alors, il est envoyé en Algérie. Et 3 ans plus tard, donc à 25 ans, il quitte l'armée, puis il entreprend une exploration risquée du Maroc, très risquée. Il faut qu'il se transforme en juif, au fond. Il part avec des juifs. Et la foi des musulmans au Maroc l'étonne. Ça réveille en lui une question. Est-ce que Dieu existerait? Et là, de retour en France, il est touché par l'accueil affectueux et discret de sa famille, qui est heureusement profondément chrétienne. Et Charles de Foucault se met en recherche, puis rencontre providentiellement un prêtre, qui sera pour lui un père, puis un ami, c'est l'abbé Huvelin. Un homme exceptionnel, un prêtre vraiment remarquable. Et en octobre 1886, comme je vous ai dit, à 28 ans, il se convertit. Puis à partir de ce moment-là, il veut donner toute sa vie à Dieu. Mais c'est pas facile parce qu'il a une fortune immense. Avec la fortune et les revenus qu'il reçoit, étant donné qu'il est orphelin, il a déjà hérité à maturité. Il pourrait mener, s'il était marié, une vie de seigneur avec plusieurs enfants, de nombreux serviteurs, tout ce qu'il lui faut comme équipage, chevaux, les carrosses, autre maison à la campagne, un luxe inouï. Or, il est seul, il est célibataire. Alors, il veut donc donner toute sa vie à Dieu. Et puis, il fait un pèlerinage en Terre Sainte. Et ça lui révèle le visage de Jésus de Nazareth. Et désormais, c'est lui qu'il va chercher à suivre, à imiter. Puis il passe d'abord 7 ans à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Puis, une trappe très sévère en France, très dure, très difficile. Puis il passe 4 ans avec permission du supérieur général à Rome. Il passe 4 ans à Nazareth, comme ermite à la porte d'un couvent de Clarisse. On peut aller visiter ça quand on va à Nazareth. Et progressivement, mais Charles de Foucault découvre que suivre Jésus, puis l'aimer passionnément, c'est se faire comme lui, proche de ceux qui sont loin, les plus abandonnés, et puis ordonné prêtre en 1901, il part au Sahara, d'abord à Beni Abbès, puis à Taman Rasset. Il essaie simplement de se faire l'ami, puis le frère des nomades du désert, les Touaregs. Il apprend leur langue, il s'initie à leur culture, et c'est un savant en sorte, en quelque sorte, il dresse tout un dictionnaire de leur langue. Il ne cherche pas à convertir, mais à aimer. Il ne cherche pas à convertir, mais à aimer, aimer, aimer. Et c'est par toute sa vie qu'il veut crier l'Évangile, dit-il d'ailleurs. Et le 1er décembre, il meurt au Hagar, où il s'était rendu, assassiné. Pendant la Première Guerre mondiale, pour avoir voulu rester jusqu'au bout, au milieu de ses amis. À un ami incroyant, Henri Duverrier, un grand explorateur, il écrit un jour, « Vous me reprochez très amicalement de peu connaître ma vie passée, elle est simple. La voici en quelques mois, à l'âge de 5 ans et demi, en 1864, j'ai perdu mon père et ma mère. » J'étais dès lors élevé par mon grand-père maternel et ma grand-mère. Ma mère était fille unique. J'ai une sœur qui a été élevée avec moi par ses excellents grands-parents. Mon grand-père, Monsieur de Morlaix, ancien officier du génie, avait pris sa retraite en Alsace, où nous sommes restés jusqu'à la guerre. Après 1870, nous sommes allés habiter à Nancy. Et là, j'ai achevé mes études et j'ai été reçu à Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est une école d'officiers. Et de là, je suis allé à Saumur, une autre grande école de cavalerie. Puis, dans un régiment de hussards, puis aux chasseurs d'Afrique. En 1881-82, j'ai passé 7 à 8 mois sous la tente dans le Sahara oranais. Cela m'a donné un goût très vif des voyages pour lesquels j'avais toujours senti de l'attrait. Et j'ai donné ma démission en 1882... pour satisfaire librement ce désir d'aventure, et je me suis préparé pendant 1 an et demi à Alger, à mon voyage au Maroc. Et je l'ai fait, et j'ai passé encore 1 an et demi en Algérie à écrire ce voyage. Et au commencement de 1886, je suis venu me fixer à Paris pour publier la relation de mon voyage, et avec la pensée d'en préparer un autre. J'avais été élevé chrétiennement, mais dès l'âge de 15 ou 16 ans, toute foi avait disparu en moi. Les lectures dont j'étais avide avaient fait cette œuvre. Et je ne me suis pas rangé à aucune doctrine philosophique. Je n'en trouvais aucune assez solidement fondée. Et je suis resté dans le doute complet. J'étais éloigné surtout de la foi catholique, dont plusieurs dogmes, à mon sens, choquaient profondément la raison. Je m'éloignais de plus en plus de vous, mon Seigneur, et ma vie. Et aussi ma vie commençait à être une mort, et dans cet état de mort, vous me conserviez encore. À la fin de sa lettre, il dit au même âge, ma vie devint dissipée, elle le resta longtemps, sans empêcher un penchant très vif pour l'étude et au régiment, j'étais très dissipé. J'étais loin des miens, ils faisaient des orgies. Au régiment, donc, je fus très dissipé. Je vis à peine ma famille de 1878 à 1886, donc de l'âge de 20 à 28 ans, pendant 8 ans. Et le peu qu'ils ont su de ma vie, surtout dans la première période de ce temps-là, n'a pu leur faire que de la peine. Je faisais le mal, mais je ne l'approuvais ni ne l'aimais. Mon Dieu, vous me faisiez sentir une tristesse profonde, un vide douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors. Elle me revenait chaque soir lorsque je me trouvais seul dans mon appartement. Elle me tenait muet et accablé pendant ce qu'on appelle les fêtes. Je les organisais, mais le moment venu, je les passais dans un mutisme, un dégoût, un ennui infini. Vous me donniez cette inquiétude vague d'une conscience mauvaise, qui, tout endormie qu'elle était, n'est pas tout à fait morte. Je n'ai jamais senti cette tristesse, ce malaise, cette inquiétude qu'alors, mon Dieu, c'était donc un don de vous. Comme j'étais loin de m'en douter. L'islam, dit-il, a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines et je me suis mis à étudier l'islam puis la Bible. À un autre de ses amis, Henri de Castries, ébranlé dans sa foi, il fait le récit de sa conversion. Pendant que j'étais à Paris, faisant imprimer mon voyage au Maroc, je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes et très vertueuses, et très chrétiennes. Et je me suis dit, pardonnez mes expressions, je répète tout haut mes pensées, je me suis dit que peut-être cette religion n'était pas absurde. En même temps, une grâce intérieure extrême, extrêmement forte, me poussait. Je me suis mis à aller à l'église sans croire, ne me trouvant bien que là. Et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière, « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » L'idée m'est venue qu'il fallait me renseigner sur cette religion où peut-être se trouvait cette vérité dont je désespérais. J'avais 28 ans. Et je me suis dit que le mieux était de prendre des leçons de religion catholique comme j'avais pris des leçons d'arabe, comme j'avais cherché un bon taleb pour m'enseigner l'arabe, j'ai cherché un prêtre instruit pour me donner des renseignements sur la religion catholique. On m'a parlé d'un prêtre très distingué, l'abbé Huvelin, ancien élève de l'école normale. Je l'ai trouvé à son confessionnal. Et je lui ai dit que je ne venais pas me confesser, car je n'avais pas la foi. Mais que je désirais avoir quelques renseignements sur la religion catholique. Et je demandais des religions, des leçons de religion. Et il m'a fait mettre à genoux. Et il m'a fait me confesser. Il m'a envoyé continuer séance tenante. Ça me rappelle cette parole de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 15. Son père courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Apportez la plus belle robe et des chaussures et tuez le veau gras. « Mon Dieu, que vous êtes bon. C'est ce que vous avez fait pour moi. Oui, jeune, je suis allé loin de vous, loin de votre maison, de vos saints autels, de votre église, dans un pays éloigné, le pays des choses profanes, des créatures, de l'incrédulité, de l'indifférence, des passions terrestres. Oh, qu'il est douloureusement loin de vous, ce pays-là. J'y suis resté longtemps, 13 ans. Dissipant ma jeunesse dans le péché et la folie. Votre première grâce, non la première de ma vie, car elles sont innombrables à toute heure de mon existence, mais celle en laquelle je vois comme la première aube de ma conversion, mais votre première grâce est de m'avoir fait éprouver la famine, famine matérielle et spirituelle. Vous avez eu la bonté infinie de me mettre dans des difficultés matérielles qui m'ont fait souffrir et m'ont fait trouver des épines dans cette folle vie. Vous m'avez fait éprouver la famine spirituelle en me faisant éprouver des désirs intimes, d'un meilleur état moral, du goût des vertus, de besoin de bien moral. Et puis quand je suis revenu vers vous, bien timidement, en tâtonnant, vous faisant cette étrange prière, si vous existez, faites que je vous connaisse. Ô Dieu de bonté, qui n'aviez cessé d'agir depuis ma naissance, en moi et autour de moi, pour amener ce moment, avec quelle tendresse, accourant aussitôt, vous avez couru, vous jeter à mon cou et m'avez embrassé. Oh, avec quel empressement vous m'avez rendu la tunique d'innocence. Et à quel divin festin, bien autre que celui de l'enfant prodigue, vous m'avez invité aussitôt. Comme il est bon ce père de l'enfant prodigue, mais comme vous êtes 1000 fois plus tendre que lui, comme vous avez fait 1000 fois plus pour moi qu'il n'a fait pour son fils. Oh, que vous êtes bon, mon Seigneur et mon Dieu. Merci sans fin. Merci. Alors Charles de Foucault, 28 ans, s'est converti. Il écrit, il n'y a pas d'état si méprisé, si méprisable. D'où vous ne tiriez les âmes, Seigneur, non seulement pour les sauver, mais pour en faire vos favoris, pour les élever à une grande sainteté. Ne désespérons jamais, ni pour nous, ni pour les autres, ni pour aucun autre, si perdu de vice qu'il soit, si éteint que semblent en lui tous les bons sentiments. Ne désespérons jamais, non seulement du salut, mais encore de la possibilité d'atteindre une admirable sainteté. Dieu est assez puissant pour cela. Espérons, car quelles que soient nos fautes, Jésus veut nous sauver. Plus nous sommes pécheurs, plus nous sommes près de la mort, plus nous sommes dans un état désespéré, plus, pour ainsi dire, Jésus veut nous sauver, car il est venu sauver ce qui va périr. 2 ans après sa conversion, il fait à 30 ans, à la demande de l'abbé Yvelin, un pèlerinage en Terre Sainte. Il est bouleversé de découvrir à quel point Jésus s'est fait l'un de nous. L'incarnation a sa source dans la bonté de Dieu, écrit-il. Mais une chose apparaît d'abord si merveilleuse, si étincelante, si étonnante, qu'elle brille comme un signe éblouissant, c'est l'humilité infinie que contient un tel mystère. Dieu, l'être infini, le parfait, le Créateur, le Tout-Puissant, immense, souverain, maître de tout, se faisant homme, s'unissant à une âme et à un corps humain, et paraissant sur la terre comme un homme, et le dernier des hommes, comme il venait sur la terre, et pour nous libérer, et pour nous enseigner, et pour se faire connaître et aimer, il a tenu à nous donner, dès son entrée dans ce monde et pendant toute sa vie, cette leçon du mépris des grandeurs humaines, du détachement complet de l'estime des hommes. Il est né, il a vécu, il est mort, dans la plus profonde abjection et les derniers opprobres, ayant pris une fois pour toutes tellement de la dernière place que nul n'a jamais pu être plus bas que lui. Il écrit aussi pour moi, cherchez toujours la dernière des dernières places, pour être aussi petit que mon maître, pour marcher derrière lui, pas à pas, en fidèle disciple. Vivre dans la pauvreté, l'abjection, la souffrance, la solitude, le délaissement, pour être dans la vie avec mon maître et mon frère, mon époux, mon Dieu, qui a vécu ainsi toute sa vie et m'en donne un tel exemple dès sa naissance. Dans « Voyageurs de la nuit », on peut lire, car il a écrit beaucoup de livres, sont publiés chez Nouvelle Cité. Il descendit avec eux et vint à Nazareth. Toute sa vie, il n'a fait que descendre en s'incarnant, descendre en se faisant petit enfant, descendre en obéissant, descendre en se faisant pauvre, délaissé, exilé, persécuté, supplicié, en se mettant toujours à la dernière place. Il écrit aussi, voyez dans cette incarnation, l'amour pour les hommes, l'amour qu'a Dieu pour eux, et par conséquent, que vous devez avoir à son exemple pour être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Cet amour, dit Charles de Foucault, comme il est actif, agissant, comme il est profond, lui faisant franchir comme d'un bond la distance qui sépare le fini de l'infini, et lui faisant employer pour notre salut ce moyen extérieur inouï, l'incarnation. Lui, Dieu, Créateur, venir vivre sur la terre. Et c'est ça que l'on se prépare à célébrer. Oublions le Père Noël, oublions tous ces décorations inutiles. Pensons à l'essentiel pendant ces jours qui viennent. Dieu, pour nous sauver, est venu à nous, s'est mêlé à nous, a vécu avec nous dans le contact le plus familier, le plus étroit, de l'Annonciation à l'Ascension, c'est-à-dire de sa conception dans le sein de Marie, jusqu'à sa montée au ciel. Pour le salut des âmes, écrit Charles de Foucault, il continue à venir à nous, à se mêler à nous, à vivre avec nous, dans le contact le plus étroit, chaque jour et à toute heure, dans la Sainte Eucharistie. Et il écrit aussi quelque chose de superbe. Ta règle, me suivre, faire ce que je ferai. Demande-toi en toute chose, que refait notre Seigneur et fais-le. C'est ta seule règle, mais c'est ta règle absolue. Toujours à Henri de Castries, il écrit, aussitôt que je crus, aussitôt que j'ai cru qu'il y avait un Dieu. J'ai compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand. Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui. L'Évangile m'a montré que le premier commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, et qu'il fallait tout enfermer dans l'amour. Chacun sait que l'amour a pour premier effet l'imitation. Il restait donc à entrer dans l'ordre où je trouverais la plus exacte imitation de Jésus. Je ne me sentais pas fait pour imiter sa vie publique dans la prédication. Je devais donc imiter la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth. Il m'a semblé que rien ne me présentait mieux cette vie que la trappe. Il m'est impossible de comprendre l'amour sans la recherche de la ressemblance. L'amour sans le partage de toutes les peines, sans l'ardent désir de la conformité de la vie. Il écrit encore à Henri de Castries. J'ai passé à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges 6 ans et demi. Puis désirant pour ressembler plus encore à Jésus un dénuement plus profond et une abjection plus grande, je suis allé à Rome et j'ai obtenu du général de l'ordre la permission de me rendre seul à Nazareth et d'y vivre inconnu, en ouvrier, de mon travail quotidien. Je suis resté là plus de 4 ans, dans une retraite, une solitude, un recueillement béni, jouissant de cette pauvreté, de cet abaissement que Dieu m'avait fait si ardemment désirer pour l'imiter. À Nazareth, il écrit, « Demandez surtout pour moi cet amour ardent, généreux, passionné, qui fait aimer Jésus par-dessus tout. Je ne demande pas de sentir cet amour, ni de sentir que Jésus m'aime, pourvu que moi je l'aime de toute mon âme, passionnément et toujours. Ô mon Seigneur Jésus, comme il sera vite pauvre celui qui, vous aimant de tout son cœur, ne pourra souffrir d'être plus riche que son bien-aimé. Mon Seigneur Jésus, comme il sera vite pauvre celui qui, songeant que tout ce qu'on fait à un de ses petits, on vous le fait, que tout ce qu'on ne leur fait pas, on ne vous le fait pas, soulagera toutes les misères de sa portée. Comme il sera vite pauvre celui qui recevra avec foi vos paroles, si vous voulez être parfait, vendez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, bienheureux les pauvres, car quiconque aura quitté ses biens pour moi recevra ici-bas 100 fois plus, et au ciel la vie éternelle. Ah, il y a tant d'autres paroles. Ah, je ne puis concevoir l'amour sans un besoin impérieux de conformité, de ressemblance et surtout de partage de toutes les peines, de toutes les difficultés, de toutes les duretés de la vie. Être riche à mon aise, vivre doucement de mes biens, quand vous avez été pauvre, gêné, vivant péniblement d'un dur labeur, pour moi je ne le puis plus, mon Dieu. Je ne puis pas aimer ainsi. Il ne convient pas que le serviteur soit plus grand que le maître. Tous les hommes sont les enfants de Dieu qui les aime infiniment. Il est donc impossible d'aimer, de vouloir aimer Dieu sans aimer. Vouloir aimer les hommes, vouloir aimer les hommes. Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. Le dernier commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, quelques heures avant sa mort, a été « mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on verra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » L'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est toute ma vie, ce sera toute ma vie, je l'espère. Il écrit ça dans une lettre à Henri Duverrier. Et alors, il se rend à Nazareth, comme il dit, soyons des hommes de désir et de prière. Ne croyons rien d'impossible. Dieu peut tout. Alors donc, de Nazareth, où Charles de Foucault vit en ermite, à l'ombre du couvent des Clarisses, il écrit à un trappiste. On peut l'appeler frère Charles de Jésus. Il faut passer par le désert et séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu. Il faut, à l'âme, ce silence, ce recueillement. Cet oubli de tout le créé au milieu desquels Dieu établit en elle son règne et forme en elle l'esprit intérieur, la vie intime avec Dieu, la conversation de l'âme avec Dieu dans la foi, l'espérance et la charité. Plus tard, l'âme produira des fruits exactement dans la mesure où l'homme intérieur se sera formé en elle. Il s'est résumé, Charles de Foucault, en quelques mots, tout l'essentiel de la vie spirituelle. Alors le jour, autant que durant la nuit, il passe de longues heures en adoration. Il écrit l'adoration, cette admiration muette, qui est la plus éloquente des louanges. Cette admiration muette qui renferme la plus passionnée des déclarations d'amour. Il écrit aussi, « Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie. Vous êtes là, à 1 mètre de moi, dans ce tabernacle. Votre corps, votre âme, votre humanité, votre divinité. Que vous êtes prêt, mon Dieu, mon Sauveur, mon Jésus, mon frère. Quand on aime, ne trouve-t-on pas parfaitement employé tout le temps passé auprès de celui qu'on aime? N'est-ce pas le temps le mieux employé, sauf celui où la volonté et le bien de l'être aimé nous appellent ailleurs? Mon Dieu, daignez me donner ce sentiment continuel de votre présence, et en même temps cet amour craintif qu'on éprouve en présence de ce qu'on aime passionnément, et qui fait qu'on ne tient devant la personne aimée, sans pouvoir détacher d'elle les yeux. Oui, qui fait qu'on se tient devant la personne aimée sans pouvoir détacher d'elle les yeux. La prière, c'est tout entretien de l'âme avec Dieu. C'est encore cet état de l'âme qui regarde Dieu sans parole, mais uniquement occupée à le contempler, lui disant qu'elle l'aime par ses regards, tout en étant muette des lèvres même de la pensée. La meilleure prière est celle où il y a le plus d'amour. Chaque jour, il se nourrit de la parole de Dieu. Lisons donc toujours l'Évangile amoureusement, comme assis au pied du bien-aimé, et l'écoutant nous parler de lui-même. Charles de Foucault écrit à Joseph Our, un laïc, « Lire et relire sans cesse le Saint-Évangile pour avoir toujours devant l'esprit les actes, les paroles, les pensées de Jésus, afin de penser, parler, agir comme Jésus, de suivre les exemples et les enseignements de Jésus. » Comme tout ça est simple pour lui, hein, c'est extraordinaire. Il écrit toute notre existence. Tout notre être doit crier l'Évangile sur les toits. Toute notre personne doit respirer Jésus. Tous nos actes, toute notre vie doivent crier que nous sommes à Jésus, doivent présenter l'image de la vie évangélique. Tout notre être doit être une prédication vivante, un reflet de Jésus, un parfum de Jésus, quelque chose qui crie Jésus, qui fasse voir Jésus, qui brille comme une image de Jésus. Voir en tout humain Jésus et agir en conséquence, bonté, respect, amour, humilité, douceur, faire pour lui plus que pour moi. Alors il est ordonné prêtre en 1901. Charles de Foucault ne retournera pas à Nazareth. Il écrit « Mes dernières retraites de diaconat et de sacerdoce m'ont montré que cette vie de Nazareth, ma vocation, il fallait la mener non dans la terre sainte tant aimée, mais parmi les âmes les plus malades, les brebis les plus délaissées. Je voudrais fonder sur la frontière marocaine non pas une trappe, non pas un grand ni un riche monastère, non pas une exploitation agricole, mais une sorte d'humble petit ermitage où quelques pauvres moines pourraient vivre de quelques fruits et d'un peu d'orge récoltés de leurs mains dans une étroite clôture. La pénitence et l'adoration du Saint-Sacrement, ne sortant pas de leur clos, ne prêchant pas, mais donnant l'hospitalité à tout venant, bon ou mauvais, ami ou ennemi, musulman ou chrétien. » Alors en octobre 1901, Charles de Foucault, frère Charles de Jésus, arrive à Béni Abbès. J'ai trouvé, à portée de la redoute et de l'oasis, et pourtant dans un lieu solitaire, un petit vallon désert mais arrosable. L'eau est assez abondante à Béni Abbès, que je vais, avec l'aide de Dieu, transformer en jardin, et sur le flanc duquel la garnison et le bureau arabe se sont mis, avec une grâce et une charité dont je suis profondément reconnaissant et touché, à me construire en briques sèches et troncs de palmiers une chapelle, 3 cellules, et une chambre d'hôte dont je prendrai possession demain, tant on a vivement poussé les travaux. Les hôtes, les pauvres, les esclaves, les visiteurs, ne me laissent pas un moment, je suis seul pour tous les emplois du couvent. Depuis le 15 que ma petite maison des hôtes est terminée, nous avons tous les jours des hôtes à souper, à coucher, à déjeuner. Cela n'a jamais été vide. Il y en a eu jusqu'à 11 une nuit, sans compter un vieil infirme à poste fixe. Il écrit « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs, à me regarder comme leur frère, le frère universel. » Il commence à appeler la maison la fraternité islam, mais d'où? Et l'oppression dont sont victimes les plus pauvres bouleverse Charles de Foucault. Il écrit « La grande question surtout est celle de l'esclavage. » Entrer dans de longs détails sur les mauvais traitements subis par les esclaves de la Saoura et des oasis me semble mal aborder la question. Ils sont maltraités, c'est vrai, mais qu'ils le soient bien ou mal, la grande injustice, c'est qu'ils soient esclaves. Il écrit dans une lettre à Don Martin, le père abbé de la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, où il a été trappiste. La fin du régime actuel et l'abolition de l'esclavage s'imposent parce qu'ils sont la justice et le droit. Il écrit « J'ai prévenu le préfet apostolique. C'est peut-être assez. Loin de moi de désirer parler et écrire, mais je ne veux pas trahir mes enfants, ne pas faire pour Jésus vivant en ses membres ce dont il a besoin. C'est Jésus qui est dans cette douloureuse situation. Ce que vous faites à un de ses petits, vous me le faites. Je ne veux pas être mauvais pasteur ni chien muet. Aimez le prochain. Pour arriver par là, l'amour de Dieu... Ces deux amours ne vont pas l'un sans l'autre. Croître dans l'un, c'est croître dans l'autre. Comment acquérir l'amour de Dieu? En pratiquant la charité envers les hommes. Dans une lettre à Louis Massignon, dont je vous parlerai un jour, il écrit « L'aumône matérielle qu'on fait à un pauvre, c'est au Créateur de l'univers qu'on l'a fait. Le bien qu'on fait à l'âme d'un pécheur, c'est à la pureté incréée qu'on le fait. Dieu a voulu qu'il en fût ainsi. Pour donner à cette charité envers le prochain dont il a fait le deuxième devoir, semblable au premier, une véritable similitude avec le premier de l'amour de Dieu. Il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile qui ait fait sur moi plus profonde impression et transformé davantage ma vie que celle-ci. Tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. » Si on songe que ces paroles sont celles de la vérité incrénée, sortie de sa bouche, qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », avec quelle force on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ses petits, ses pécheurs, ses pauvres. Dans une lettre à Mgr Guérin, le 24 février 1903, il écrit « Vous demandez si je suis prêt à aller ailleurs qu'à Béni-Abbesse pour l'extension du Saint-Évangile. Bien, je suis prêt pour cela à aller au bout du monde et à vivre jusqu'au jugement dernier. » En décembre 1903, il écrit à l'abbé Huvelin, qui l'a amené à la conversion en le confessant rapidement, « J'ai aussi une grosse incertitude. C'est au sujet du voyage que j'avais projeté dans le sud. Cela m'est, à ce moment, on ne peut plus facile. On m'y invite, on m'y attend. La nature y répugne à l'excès. Je frissonne, j'en ai honte, à la pensée de quitter Béni-Abbesse, le calme au pied de l'autel, et de me jeter dans les voyages pour lesquels j'ai maintenant une horreur excessive. La raison montre aussi bien des inconvénients. Laisser vide le tabernacle de Béni-Abbesse, m'éloigner d'ici, ou peut-être, c'est peu probable cependant, il y aura des combats, me dissiper dans ces voyages qui ne sont pas bons pour l'art. La solitude et la vie de Nazareth ne sont-elles pas ma vocation? Après que la raison a dit tout cela, je vois ces vastes régions sans un prêtre. Je me vois le seul prêtre qui puisse y aller. Et je me sens extrêmement et de plus en plus poussé à m'y rendre au moins une fois et selon le résultat, selon ce que l'expérience montrera, y retourner ou non. Malgré que la raison oppose et la nature ayant une véritable horreur de cette absence, je me sens extrêmement et de plus en plus poussé intérieurement à ce voyage. Alors il va partir en janvier 1904, vers le Hogar. Je vis au jour le jour, aussi longtemps que je pourrai rester utilement en ce pays. et que d'autres ne viendront pas me remplacer, j'y resterai, car c'est un poste où il faut quelqu'un. Je prends ici comme règle faire les choses que je crois très utiles aux âmes. Il faudrait mettre ça dans nos vies. Faire les choses que je crois très utiles aux âmes, et que les circonstances ne permettent pas à d'autres de faire. Je pense donc rester en ce pays tant que j'y serai toléré, que je n'y serai pas remplacé, que je pourrai travailler utilement au règne de Jésus. Il est entièrement pris par Jésus, c'est admirable. C'est même gênant d'en parler, il faudrait que je me convertisse, mon Dieu. En ce moment, je suis nomade sous la tente, écrit-il, changeant sans cesse de lieu. C'est très bon pour les débuts, car cela me fait voir beaucoup de monde et de pays. Il écrit aussi, « Grâce à Jésus, j'ai pu, à peu près chaque jour, célébrer la Sainte Messe, mais depuis le départ de Béni Abbès, j'ai presque toujours remplacé le bréviaire par le rosaire, et parfois le rosaire remis au soir n'a pas été achevé. En marche, je pense à Jésus le plus que je peux, mais hélas, si misérablement. Le temps qui n'est pas pris par la marche et le repos est employé à préparer les voies en tâchant de lier amitié avec les Touaregs et en faisant les lexiques, les traductions indispensables à ceux qui voudront porter Jésus auprès de ces gens. Alors l'année suivante, il décide de rester à Tamanrasset. Il m'est impossible de m'installer, me fixer à Tamanrasset ou dans tout autre point du Hogar, d'y avoir maison et jardin et m'y établir pour toujours. Cette possibilité me paraît même une volonté du bien-aimé. Mais je choisis Tamanrasset, village de 22 feux en pleine montagne, au cœur du Hogar, ou du Dagralé, sa principale tribu, à l'écart de tous les centres importants. Il ne semble pas que jamais il doive y avoir garnison, des soldats français, ni télégraphe, ni européen, et que de longtemps il n'y aura pas de mission. Je choisis ce lieu délaissé. Et je m'y fixe en suppliant Jésus de bénir cet établissement où je veux dans ma vie prendre pour seul exemple sa vie de Nazareth. Alors mon temps est partagé entre la prière, les relations avec les indigènes et les travaux de langue touareg. Je donne une très grande place à ces derniers, d'abord pour en finir avec eux et être entièrement au reste, ensuite parce qu'ils me sont nécessaires. Je ne puis faire du bien aux touaregs qu'en causant avec eux et en sachant leur langue. Et mon apostolat doit être celui de la bonté. En me voyant, on doit dire, puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire, parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi. Si vous saviez combien est bon mon maître Jésus, je vous ai être assez bon pour qu'on dise, si tel est le serviteur, comment donc est le maître? Tout chrétien doit regarder tout humain comme un frère bien-aimé. Il a pour tout humain les sentiments du cœur de Jésus. Charles de Foucault s'apprête à mourir, il y pense qu'il pourrait mourir martyr. Mais il écrit quand même « La confiance dont m'entourent les Touaregs du voisinage va croissant. » Les amis anciens et deviennent plus intimes. De nouvelles amitiés se forment. Je rends service en ce que je peux. Je tâche de montrer que j'aime. Lorsque l'occasion semble favorable, je parle de religion naturelle, des commandements de Dieu, de son amour, de l'union à sa volonté, de l'amour du prochain. Dans une lettre à Joseph Our, le 3 mai 1912, il écrit être charitable, doux, humble, avec tous les hommes. C'est là ce que nous avons appris de Jésus. N'être militant avec personne. Jésus nous a appris à aller comme des agneaux parmi les loups. Voyez-vous, parmi les loups. Il écrit aussi à ce même homme, la charité qui est le fond de la religion. Le premier devoir est d'aimer Dieu. Le deuxième, semblable au premier, est d'aimer le prochain comme soi-même. Alors la charité qui est le fond de la religion oblige tout chrétien à aimer le prochain, c'est-à-dire tout humain, comme soi-même, et par conséquent à faire du salut du prochain comme de son propre salut, la grande affaire de sa vie. Tout chrétien doit donc être apôtre. Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. C'est le commandement de la charité. se faire tout à tous, pour les donner tous à Jésus, en ayant avec tous bonté et affection fraternelle, en rendant tous les services possibles, en prenant un contact affectueux, en étant un frère tendre pour tous, pour amener petit à petit les âmes à Jésus en pratiquant la douceur de Jésus. C'est tout un programme, hein? Il écrit aussi, dans une lettre à Mgr Guérin, les moyens dont Jésus s'est servi à la crèche, à Nazareth et sur la croix, sont pauvreté, abjection, humiliation, délaissement, persécution, souffrance, croix. Voilà nos armes, celles de notre époux divin qui nous demande de le laisser continuer en nous sa vie. Suivons ce modèle unique, et nous sommes sûrs de faire beaucoup de bien, car dès lors, ce n'est plus nous qui vivons, mais lui qui vit en nous. Nos actes ne sont plus nos actes à nous, humains et misérables, mais les siens divinement efficaces. Il écrit aussi, Monseigneur Jésus, qui avait dit, « Personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Eh bien, je désire de tout mon cœur donner ma vie pour vous. Je vous le demande instamment. Toutefois, non ma volonté, mais la vôtre. Je vous offre ma vie. Faites de moi ce qui vous plaira le plus. Mon Dieu, pardonnez à mes ennemis. Donnez-leur le salut. Et le jour de sa mort, il écrit à sa cousine, Madame de Bondy, qui l'a tant aimé et amené au Christ, Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. C'est ce que Saint Jean de la Croix répète presque à chaque ligne. Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup, on peut le plus qu'on peut en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime, et c'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer. Et vouloir aimer, c'est aimer. On trouve qu'on n'aime pas assez, comme c'est vrai. On n'aimera jamais assez. Mais le bon Dieu, qui sait de quel bout il nous a pétri, et qui nous aime bien plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous a dit, lui qui ne ment pas, qui ne repousserait pas celui qui vient à lui. Et le même jour encore, le jour de sa mort, il écrit à Louis Massignon, il ne faut pas hésiter à demander les postes où le danger, le sacrifice, le dévouement sont plus grands. L'honneur, laissons-le à qui le voudra. Mais le danger, la peine, réclamons-les toujours. C'est un principe auquel il faut être fidèle toute sa vie en simplicité, sans nous demander s'il n'entre pas de l'orgueil dans cette conduite. C'est le devoir. Faisons-le et demandons au bien-aimé de le faire en toute humilité, en tout amour de Dieu et du prochain. Pense que tu dois mourir, martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, et désire que ce soit aujourd'hui. Alors, victime de la violence, il meurt à 58 ans au soir du 1er décembre 1916. Des années auparavant, il avait écrit, on trouve ça dans « En vue de Dieu seul », quel que soit le motif pour lequel on vous tue, si nous, dans l'âme, nous recevons la mort injuste et cruelle comme un don béni de votre main, si nous vous en remercions comme d'une douce grâce, comme d'une imitation bienheureuse de votre fin, si nous vous l'offrons comme un sacrifice offert de très bonne volonté, si nous ne résistons pas pour obéir à votre parole, ne résistez pas au mal. Et à votre exemple, il s'est laissé non seulement tondre, mais égorgé sans se plaindre. On trouve ça dans Isaïe. Alors, quel que soit le motif que l'on a de vous tuer, ou de parler contre vous, ou de dire des choses terribles contre vous, ou de vous engueuler, ou de vous dire des bêtises, tout ça, ça n'a pas d'importance. Alors, quel que soit le motif que l'on a de nous tuer, nous mourrons dans le pur amour, et notre mort vous sera un sacrifice de très agréable odeur au Seigneur Jésus. Ici, ce n'est pas un martyr dans le sens strict du mot, et aux yeux des hommes, cela en sera un à vos yeux, et ce sera une très parfaite image de votre mort, ô Seigneur Jésus. Nous avons de lui tellement de beaux livres. On a publié autrefois, en 1946, un premier volume, premier tome des cahiers Charles de Foucault. Il devait s'en publier 4 par année. Je ne sais combien il y en a, je n'ai que le premier. Et René Bazin avait publié une vie de Charles de Foucault dès Copérate 1921, voyez-vous. Ça a été publié, republié, republié, même en 1954, je crois que c'était encore publié. Ça a fait grand bruit. Et le chanoine Jean Dhermine avait publié en 1935 la vie spirituelle de Charles de Foucault chez Le Tielleu. Puis ensuite est arrivé Michel Carouge, un laïc, qui a publié un Charles de Foucault explorateur mystique aux éditions du Cerf. Au Copérate 1954. Et on peut le trouver dans la collection 10-18. Puis il y a Jean-François Six, qui a publié ce magnifique itinéraire spirituel de Charles de Foucault aux éditions du Seuil, avec des photos extraordinaires. Et c'est été repris encore vie de Charles de Foucault par Jean-François Six dans la collection aux éditions du Seuil, là, une petite collection, en livre de poche, là, livre de vie. Et Jean-François Six a publié encore Charles de Foucault aujourd'hui aux éditions de ce magnifique livre. Et si vous voulez lire un livre, c'est surprenant, c'est Charles le Petit aux éditions du Cerf. Plus loin sur la piste Charles de Foucault, il nous montre des choses qu'on ne sait pas toujours sur le caractère difficile parfois et impatient de ce grand saint qu'est Charles de Foucault, qui n'est pas béatifié encore. Et Marguerite Cassion-Duperron, que j'avais eu l'honneur d'interviewer à Rencontre, grâce à Marcel Brisebois, qui l'avait très bien interviewé, 2 entrevues, eh bien, elle a publié un gros Charles de Foucault en 1982, 500 pages. Puis il y a aussi Eugénie de Bouté, qui a publié en 1991 chez Médiapol un Charles de Foucault, le frère universel. Mais chez Nouvelle Cité, on publie les œuvres complètes de Charles de Foucault. On avait déjà publié les œuvres spirituelles chez Au Seuil, oh mon Dieu, en 1958. Il s'est publié toutes sortes de choses admirables. Mais il y a ici à Montréal quelqu'un d'extraordinaire et qui publie de bien belles choses. C'est le frère Richard Ledoux. Un frère de l'instruction chrétienne, qui publie des choses magnifiques. On peut se procurer ses livres. Oh, il y en a tellement. On peut se publier ses livres chez la rue Brébeuf, auprès de l'abbé Pierre Desroches. Je crois qu'ils habitent la même maison. Et il y a toute une collection de documents magnifiques, inspirés des textes de Charles de Foucault, des petites brochures sur Dieu, sur la conversion personnelle, sur le sens de la vie, le bonheur, l'amour envers Dieu. Magnifique, magnifique. Le frère Richard Ledoux, des frères de l'instruction chrétienne.